auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4 Marseille et Radio Mono au Chalon Champagne, nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle émission de Mets de Résistance avec une surprise, un invité surprise qui est d'origine roumaine et qui vit en France. Il est peintre et il s'appelle Sergiu Zancu. Sergiu, bonjour.
Bonjour.
Alors Sergiu, je vais te présenter à mes auditeurs puisqu'ils ne te connaissent pas. C'est pas la première fois qu'on fait une émission sur de la peinture ou sur une exposition. On en a déjà eu plusieurs. Je suis passionnée de peinture, donc j'essaie de faire partager ça à mes auditeurs de temps en temps. Mais on fait souvent des émissions politiques aussi, hein. Mais aussi on fait beaucoup d'émissions sur la peinture et la culture. Et parce que ça aussi, c'est de la résistance. Et pour moi, tous les peintres sont des résistants. Mon émission s'appelle Mets de Résistance, M-E-T-S, c'est des plats de résistance, et c'est une émission qui évoque toutes les résistances au quotidien, les grandes, très connues, comme les plus petites. Voilà.
Ah, c'est une bonne idée.
Et donc, nous allons aujourd'hui parler de Sergiu, parce que Sergiu est peintre. Il est arrivé en France, en quelle année exactement?
Fin
1990, et en ce moment, il est en train d'exposer. Tu peux nous donner l'adresse.
Voilà. Donc, on est à la galerie La Rutile, qui est au Place Saint-Gervais, au 6 avenue Édouard Vaillant. Voilà. Et c'est une exposition dans un espace, une galerie qui n'est pas grande, mais c'est une exposition assez dense. Voilà. Que sans avoir fait exprès, ça fait comme une petite rétrospective de poche de mon travail. C'est le titre de l'exposition, c'est Conciliabule au fil du temps, et c'est autour de tableaux qui s'associent en diptyque, triptyque, trilogie, voilà. Et voilà. L'idée, c'est que l'œuvre d'art, c'est un lieu de rendez-vous, de rencontre entre l'artiste et le public. Et voilà, donc c'est pas un lieu où on s'explique tout, mais on se pose les questions et on s'ouvre à des choses inattendues qu'on crée. Et cette exposition en espèce, c'est aussi mise en dialogue des œuvres entre elles, donc des œuvres qui représentent chacune une histoire, mais ensemble une nouvelle histoire dans le dialogue qui a voilà dans ces diptyques, principalement des diptyques, mais il y a d'autres associations en triptyque, même triptyque des triptyques, voilà.
Très bien, merci Sergiu. Alors c'est très intéressant. Donc pour en revenir à ton petit parcours, parce que je voudrais qu'on parle d'abord de ta biographie, tu es arrivé en France dans les années 90 et tu es peintre depuis quand? Tu as fait des études de peinture et les beaux-arts en Roumanie peut-être?
C'est bien ça. J'ai fait les beaux-arts à Bucarest, mais j'étais dans le circuit artistique depuis la sixième, dans un collège-lycée, dans une grande ville. Je viens d'une petite ville de Bukovina, qui est un territoire de rêve au nord-est de la Roumanie. Donc j'ai ouvert les yeux sur un monde merveilleux qui m'a imprégné, et assez vite j'étais conscient de la chance que j'ai de vivre dans des lieux aussi beaux. Et peut-être ça se retrouve, cet espoir de faire transmettre ces émotions, les émotions par rapport à ces choses significatives qui se retrouvent tout au long de mon travail d'artiste.
Très bien, parce qu'il faut bien souligner une chose, c'est que Sergiu nous vient d'une très très belle région qui est en Roumanie, qui est la Transylvanie.
Non, c'est Bukovina, qui est le nord de la Moldavie.
Ah d'accord.
Et ma ville, c'est effectivement sur la frontière, la ville la plus de montagnes de cette région, la frontière entre la Transylvanie et la Moldavie. C'est les deux provinces de l'Est et de l'Ouest de la Roumanie, au nord. Voilà. Et à le nord de la Transylvanie, qui est le Maramureș, aussi c'est un territoire de rêve avec une histoire très dense, des beautés extraordinaires au niveau de la culture et du paysage, des lieux, voilà.
D'accord, donc tu es limitrophe avec la Transylvanie, donc c'est un peu comme si tu y étais.
C'est ça, c'est ça.
Parce que c'est quand même un territoire mythique dont beaucoup de gens parlent.
Oui, alors les mythes qui existent ici, c'est un peu presque commercial, je dirais. par le mythe de Dracula. Et,
les oui, gens, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à s'y connaître. Oui. Notamment, il y a un festival de rock très important qui est dans le Caucase. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à ce festival de toute l'Europe.
Mais c'est quel festival, tu te souviens?
Je ne sais plus comment il s'appelle, ce festival, mais il est vraiment situé dans une des villes phares, un peu kitsch, un peu cliché de la Transylvanie.
Ah bon? Oui. Mais je ne connais pas des villes comme ça.
Pardon, moi je te...
Des villes kitsch en Transylvanie.
Enfin, kitsch, c'est-à-dire une ville... parce que bien sûr, comme tu l'as dit, la Transylvanie, ses cartes postales et clichés, on pense à Dracula, tout ça.
C'est perçu d'ici comme ça.
Voilà.
Nous, on se prend très au sérieux par rapport à l'histoire de chaque ville. C'est vrai que l'histoire roumaine, qui était un des pays exposés à toutes les invasions possibles qui venaient de l'Est, c'est une histoire très dense. Et c'est imprégné de cette volonté de tenir, de résister. On était à l'intersection de beaucoup d'empires très ambitieux. Voilà, ottomans, tsaristes,
polonais
avec leur période d'ambition. Même les
Turcs,
austro-hongrois, et surtout ottomans, je dis les Turcs, c'était le grand ennemi qu'on a affronté. Avec un peu plus de succès que nos voisins, parce que de tous les pays de cette zone carpathique jusqu'à la Méditerranée, ils ont été tous transformés en pachalik, en administrés dans l'Empire ottoman, sauf les pays roumains, même les trois, même la Transylvanie qui faisait partie du royaume hongrois, quand la Hongrie a été transformée en pachalik, elle a gardé son statut assez indépendant. Donc on paye un tribut très lourd, mais on était administré par nos princes, etc. Donc quand tu dis que ça fait un peu kitsch, je ne trouve pas dans ma tête une ville qui peut correspondre à ça. Et ça peut être vu d'ici. Par rapport à ces choses qui ont été brodées, il y a des endroits,
c'est ça.
Paris, c'est le château de Dracula, etc.
Oui, voilà, je ne sais plus quelle ville c'est. Enfin,
c'est pas une. Vous savez que Dracula, c'est une invention de Bram Stoker, c'est un franc-maçon irlandais qui était très informé, c'était des gens très cultivés, très informés sur la géographie et tout ça. Et en suivant le trajet des personnages et des lieux où se trouve Dracula, effectivement, le château qui est dans le roman est pas loin de ma ville. Ouais. Mais il n'y a rien de spécialement diabolique.
C'est là que c'est cliché, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dracula, c'est en Transylvanie.
Ils disent ça parce que si on suit le trajet des personnages dans le roman, c'est effectivement dans cette partie de montagne entre la Transylvanie et la Moldavie. Mais le prototype, le personnage historique qui s'appelait parfois Vlad Dracu, Dracu ça veut dire le diable, un terrible personnage, un grand résistant devant les Turcs, etc., il n'était pas en Transylvanie, il était en Valachie, c'est-à-dire le troisième royaume roumain, troisième principauté roumaine au sud des Carpates.
D'accord.
Donc là où se trouve la capitale actuelle, Bucarest. Mmh. Et la seule liaison avec la Transylvanie, c'est qu'il a dû quitter le trône devant les Turcs, finalement, et il a été réfugié en Transylvanie. Mais c'était presque un réfugié politique.
D'accord.
C'est pas chez lui.
Donc, justement, donc en fait, là, tu nous apprends une chose. Dracula était en fait un homme politique roumain qui a été désisté de son trône par l'invasion ottomane. Et justement, c'est très intéressant parce que on a un deuxième Dracula que tu as connu, qui était Ceausescu, le dictateur dont tout le monde parle, a parlé à l'époque, ça fait la une des journaux dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est suite à sa chute que tu es justement parti de Roumanie. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Puisque nous, auditeurs, on a tous vu des scènes de la Roumanie à l'époque de Ceausescu, et on a vu des scènes de son désistement à la télé quand on était jeunes, mais aucun de nous ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et c'est très intéressant d'entendre parler quelqu'un de l'avant et de l'après.
Oui,
donc est-ce que tu peux, parce qu'en même temps on est très intéressés, moi et mes auditeurs, de connaître les débuts de ta carrière de peintre et savoir quelles écoles tu as faites, pourquoi tu as voulu être peintre, etc. On peut peut-être partir de là et raconter ce que c'était que la vie sous Ceausescu.
Alors, dire tout ça, c'est pas possible.
C'est pas évident, mais je vais poser des questions, ça va t'aider.
Beaucoup.
Voilà. Donc, à quel âge tu as commencé à vouloir faire de la peinture?
Je vais dire une chose, il faut se méfier quand on pose des questions à un roumain, oui. Parce que vous n'aurez jamais la réponse sous forme d'une phrase. Vous avez chaque fois tout un conte, un tour vraiment qui illustre très bien, de manière très complète et complexe la réponse. Oui. Mais voilà, c'est, pour tout ça, ça n'ira pas assez de place. Je peux dire rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de dire tout ça, mais dire par rapport à ce qui est connu ici, par rapport à Ceausescu.
Bah ici, c'est très cliché. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment des images d'Épinal. D'ailleurs, quand Ceausescu est tombé, que la presse est devenue libre en Roumanie, c'est qu'on ne savait pas, justement, fasciné par cette liberté, on ne savait pas que toute la clique de Ceausescu avait conservé le pouvoir.
Ouais.
Et tous ces gens qui étaient un peu à coupe réglée devant quelqu'un qui était très puissant étaient très contents de se débarrasser de Ceausescu et devenir eux-mêmes plus aptes de mieux mettre le pays dans leur poche. Voilà, donc tout se réduit à ça. Et ils ne voulaient pas du tout assainir un pays qui a été saigné à blanc, mais ils voulaient juste garder leurs privilèges. C'est la suite de Ceausescu, elle était préparée d'avance. Toute sa clique a pris le pouvoir et s'est réussi à se débarrasser de lui après une préparation, parce que Ceausescu a été, si on regarde plus attentivement, Ceausescu n'a pas été diabolisé, il était même admiré par rapport à son indépendance par rapport aux soviétiques, etc. C'est 3 ans.
Oui, c'était en quelque sorte.
D'un coup, il est devenu le dinosaure, le terrible dictateur et tout. Or, lui, il n'a pas été, il a été l'exponent d'un système, mais le système, si c'était quelqu'un d'autre, aurait été pareil. Quelqu'un qui a le pouvoir et ne peut jamais être vraiment critiqué, il ne sait pas où il est. Donc il ne pouvait pas contrôler. C'était un politicien très rusé, très habile, mais il y a des choses qui étaient trop difficiles. Quand tu es seul et personne ne te contredit, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il en est de la réalité du pays qu'il dirigeait. Voilà, c'est pas pour le défendre, pour dire que cette image de Dracula, deuxième Dracula et tout ça, elle est trop facile, voilà. Vivre dans le communisme, c'était vivre dans une utopie, parce que s'il s'est installé par les soviétiques, a été installé par les soviétiques. Le premier souci des soviétiques a été de se débarrasser de tout ce qui tenait la personnalité d'un peuple, surtout qu'on n'était pas un peuple, c'est le seul peuple pas slave dans la région, donc ils ont mis le paquet pour soumettre le pays, pour exterminer...
Oui, c'est juste pour nos auditeurs, pardon, je t'interromps un peu, Sergio, parce que tu parles beaucoup, oui. Si je ne t'interromps pas, je ne parlerai jamais. Oui. C'est juste pour dire à nos auditeurs, qui ne le saurait pas, que la Roumanie, on est bien placé pour le savoir à Marseille, pour les gens de Marseille, parce que vous avez eu un écrivain qui connaissait très bien la Roumanie, qui était Frédéric Mistral, et qui allait souvent en Roumanie, parce que la Roumanie, c'est le seul pays latin de l'Europe de l'Est. Il a une langue latine, et à l'époque de Frédéric Mistral, donc à la fin du 19e siècle, il y a eu toute une politique diplomatique visant à rapprocher la France de la Roumanie, parce que ce sont deux pays latins.
Oui.
Je le dis parce que nos auditeurs ne le savent pas.
Voilà.
Quand tu as dit, on était les Roumains, c'était les seuls à pas être slaves.
Oui, c'est vrai.
Donc on a essayé de les mettre.
En fait, la conscience des Roumains de leur latinité était très grande. C'est comme ça qu'ils sont émancipés et que le nom de Valach, qui était à l'époque des chancelleries médiévales dans l'Europe pour désigner notre peuple, ils ont préféré le nom de Roumains, c'est pour dire que qu'on vient de Rome. Et aussi, il était conscient aussi ailleurs, parce que c'était une période du 19e siècle où les progrès et la pression pour que les pays se modernisent, c'est l'abolition de l'esclavage, des gitans et tout ça, ça a été fait aussi sous la pression de l'Occident. Il y a eu un concours organisé par Mistral. Ouais. De tous les pays latins pour faire un poème à la gloire de la gente latine. Et le prix a été gagné par le poète roumain Vasile Alexandri. C'était le grand poète roumain de l'époque, pas seulement poète, auteur de théâtre, beaucoup de choses, voilà, de la culture, un bâtisseur de culture, et est devenu un grand ami de Mistral.
Il a, d'accord.
Il a écrit le chant de la gente latine en roumain, qui disait du Danube jusqu'à la Seine, des Carpates jusqu'aux Pyrénées, toute la gente latine réunit ses enfants, ses fils. Et ainsi de suite, ce très beau poème, que je sonne merveilleusement en Roumanie, a été distingué par. De ce moment-là, sont devenus de très bons amis, etc. Voilà, s'écrivaient régulièrement, se rendaient visite.
Oui, tout à fait. Et ça a d'ailleurs occasionné un rapprochement important entre la France et la Roumanie. Oui. Et ça a contribué à implanter un peu la France en Europe de l'Est. Parce que par ailleurs, c'est plus difficile parce que la langue n'est pas la même avec les autres pays. Et là, il y avait des points communs qui étaient intéressants. Et ça s'est notamment fait par la littérature et la poésie. Comme quoi, la création artistique, ça aide beaucoup sur le plan politique.
Oui, il y avait une fascination enfin, dans le monde pour la culture française. Et c'était légitime que ça soit aussi pour les Roumains. Mais ça coïncidait avec l'émancipation des Turcs, qui a été gagnée par les armes en 1877. Et aussi au plan diplomatique, parce que Vassili Alexandri était un diplomate très important, tous ces changements politiques ont été reconnus par la France et a beaucoup poussé pour que cette émancipation se fasse. Et la Roumanie s'est modernisée, ce que d'autres parties de l'Europe ont pris des siècles, s'est modernisée dans un siècle, beaucoup sous l'influence, avec l'aide et sur le modèle français. Les écoles dans toutes les localités et tout ça s'est fait très vite. Et au niveau politique même, la constitution roumaine à la veille de la Première Guerre mondiale était plus avancée que les constitutions occidentales parce qu'il n'a pas eu, on n'a pas eu à démolir ou à changer des choses, on les a racontées sur ce qui était vraiment le progressiste de l'époque. Au niveau des acquis sociaux et ainsi de suite.
Voilà. C'est très intéressant. Et justement, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec ta peinture, mais on va y revenir après. Est-ce que en Roumanie, il y a eu une certaine forme d'acculturation? Est-ce que la Roumanie souffrait? D'abord, après 14-18, quand il y a eu la conférence de Paris en 1919, est-ce que la Roumanie souffrait d'une certaine forme de découpage de son territoire, d'une espèce de perte de membres amputés, et qu'elle a voulu réparer après 14-18? Et est-ce que, à la veille de la chute du mur et du départ de Ceausescu, est-ce que la Roumanie souffre également d'une certaine forme d'acculturation? Est-ce que la Roumanie a souffert de ça ou est-ce que la cohésion nationale en Roumanie...
Je vais juste donner des repères pour ne pas raconter trop longtemps à la Roumaine. Les territoires occupés, habités par les Roumains n'étaient pas tous en la Roumanie parce qu'en 1859, la Moldavie et la Valachie sont unifiées et c'est la première fois qu'il existait la Roumanie. Les peuples qui faisaient partie des grands empires européens ont pris conscience de leur identité. C'est merveilleux, cette merveilleuse période des écoles nationales dans la musique, etc. Et c'est pareil.
Quelle époque, pardon?
Le 19e siècle.
Oui. C'est pour ça que c'est à cause de cette époque-là, c'était commun à tous les pays d'Europe de l'Est, que les gens sont quand même beaucoup plus cultivés dans cette partie de...
Complètement.
Dans le reste de l'Europe.
C'était... disons que c'était une grande motivation. Et d'un coup, les gens qui n'avaient pas, comme nous, n'avaient pas une production littéraire, etc., tout le monde a soulevé les manches, s'est mis à écrire. Et c'était une grande effervescence et certaines choses merveilleuses qui ont été créées dans tous les domaines de la création artistique et littéraire. Et voilà, donc il y avait cette prise de conscience, les gens qui parlaient la même langue se trouvaient dans plusieurs pays différents, plusieurs empires. Il y avait une partie des Roumains non négligeable, notamment la Transylvanie, mais aussi le Banat au sud de la Transylvanie, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Il y avait une partie de la Moldavie de l'Est, la province de l'Est qui n'était pas en Roumanie, mais c'était l'Empire tsariste qui l'a dominé. Il y avait les deux pays de l'Est, Moldavie et Valachie, qui étaient sous domination ottomane. Voilà. Et tout le monde, d'un coup, s'est commencé à vouloir montrer au monde. C'était comme ça. On va montrer qu'est-ce qu'on est. On est les Roumains, on est fiers de ça. Et la volonté d'arriver dans le même pays. Et justement, après avoir fait beaucoup de sacrifices, ça a été très dur pour la Roumanie, là, 2 ans de guerre, au 1er décembre 1918, il y a eu 1 million de Roumains en Transylvanie, Alba Iulia, la cathédrale du peuple en Transylvanie, qui sont réunis pour crier « Voulons être dans notre pays, vont nous unifier ». Et c'est que a été décidé au traité de Versailles. Mais les Roumains l'avaient déjà acté. Ils étaient déjà, pour eux, c'était déjà unifié. Après le traité de Versailles, où la France aussi a beaucoup compté, a beaucoup pesé, ça a été considéré un fait accompli. Et à partir de ce moment-là, la Transylvanie, principalement, mais aussi la Bucovina d'où je suis, du nord, la Moldavie de l'Est, tous ces territoires sont entrés dans les frontières de la Roumanie. Ça, c'est là qu'a été créée la Grande Roumanie. Par contre, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, par le pacte Ribbentrop-Molotov, Staline et Hitler ont pris des morceaux de la Roumanie. La moitié de la Transylvanie a été englobée par Hitler à son allié, la Hongrie, comme restitution. Et Staline a pris tout l'est de la Moldavie pour créer un pays soviétique. Donc il a créé la Moldavie, ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui.
Parce que la Moldavie, c'est une construction artefactuelle qui n'existait pas avant.
Ça existait, justement.
Elle existait en tant que région.
C'était un grand pays, la Roumanie. Il y avait 3 provinces, Transylvanie, Moldavie et au sud la Valachie. Donc la Moldavie, en tant qu'État, avec un monarque, avec une chancellerie et tout ça, ça existe depuis le 13e, 14e siècle. Mais le nord, à l'est de la Moldavie, il y avait une partie qui a été à un moment donné cédée. Comme je t'avais dit, les deux pays à l'est et au sud étaient sous vassalité aux Turcs. Et dans les guerres qui ont avancé entre les Turcs et la guerre d'Odessa, etc., même après la guerre napoléonienne, en 1830, au nord de la mer Noire, à l'est de la Moldavie, a été cédé par les Turcs aux Russes. Et ils ont eu cette région, ils l'ont eu sur leur administration. Voilà. Mais en 1218, ce territoire, nous on appelle ça la Bessarabie, il y a encore beaucoup à raconter, il s'est unifié dans la Grande Roumanie. Mais Staline, en 1939, comme il s'est emparé de la Pologne, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, il s'est emparé de la Bessarabie, il a créé un nouveau pays, on l'a arraché à la Roumanie. Et comme lui, il a gagné dans la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas pu récupérer. Donc c'est resté un pays soviétique, la Moldavie. Mais la Moldavie, en tant que pays soviétique, c'est la moitié de la Moldavie historique. C'est juste l'Est. Voilà. Et par contre, par rapport comme les Hongrois ont été battus dans la Deuxième Guerre mondiale, on a pu récupérer la moitié de la Transylvanie que Hitler avait arrachée.
Voilà. D'accord.
Donc, c'est plus après la Deuxième Guerre mondiale, parce que Staline a pris l'Est de la Moldavie et le nord de ma région, du nord de la Moldavie, la Bucovina, le nord de la Bucovina, il a arraché la collée à l'Ukraine. Jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine n'avait jamais été, avant les soviétiques, n'a jamais inclus la Bucovina. Mais quand Staline l'a collée à l'Ukraine, quand l'Ukraine s'est décollée de l'Empire soviétique, il est parti avec le cadeau, il est parti avec la Bucovina du Nord qui est restée, qui est toujours en Ukraine. Donc c'est pour nous. C'est complexe l'histoire. Mais pour nous, ça représente une douleur, le fait que les Roumains de Bucovina du Nord sont en Ukraine, non pas en Roumanie.
Oui, d'accord. Oui, c'est normal. Surtout avec la guerre aujourd'hui.
Oui, la guerre comme l'Ukraine est victime par rapport aux Russes, c'est difficile de leur expliquer qu'on aimerait bien que ces terres roumaines nous reviennent.
Oui, tout à fait. Surtout qu'elles sont issues d'une scission qui date de la guerre 39-40,
c'est ça oui, c'est ça, la Deuxième Guerre mondiale. Oui.
Et pourquoi est-ce que ça a été annexé à l'Ukraine plutôt que de rester en Roumanie?
Parce que Staline, l'a enlevé.
Ah oui, c'est Staline.
Il a coupé, il a mis le doigt sur la carte, le crayon, il a dessiné la nouvelle frontière. Et une partie qui était à l'est, il a fait un pays séparé. Et le nord qu'il avait. Nous avait pris, il a collé au pays soviétique qui était là, l'Ukraine.
Le pays séparé, c'est l'actuelle Moldavie, c'est ça?
Celui qui allait, c'est l'actuelle Moldavie.
Ouais. Mais qui est toujours là. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la Moldavie, c'est quand même un pays qui a des racines, certes, mais qui tire ses racines du local, mais oui. Au niveau national, il n'y a pas d'histoire.
C'est très compliqué.
Il n'y a pas d'histoire nationale, quoi. C'était difficile de faire.
Ça faisait partie de la Roumanie.
Mais c'est très difficile de faire une.
Tout le Moyen-Âge.
C'est très difficile de faire une nation à partir de.
Non, parce que la Moldavie, c'est des Roumains.
Oui, j'ai bien compris que c'était des Roumains.
Ils ont eu un lavage de cerveau extrêmement brutal à l'époque de Staline et on leur a sorti de la tête qu'ils sont Roumains. Ah ouais. Et toute la partie de la Moldavie, l'histoire millénaire de la Moldavie existe pour eux, mais c'est des Moldaves.
Oui, j'ai compris.
Pour les Roumains de Moldavie, dans la Moldavie actuelle, ils se disent Moldaves, mais Moldaves, c'est parce que, comme on dit ici, des Bretons. Ou qu'on dit, je sais pas.
Oui, mais la Moldavie, c'est un État.
C'est un territoire.
C'est pour ça que je dis, c'est très difficile de créer un État-nation, alors qu'au départ, comprends, dans l'inconscient collectif des gens.
Pour les gens, c'est très difficile d'en parler, ouais. Parce qu'on connaît le tigre qui est Poutine. Ouais, il attend que ça, que la Moldavie demande de s'unifier à la Roumanie. Pour qu'ils se disent, non, c'est plus légitime que ça soit avec nous. Donc, pour qu'ils entrent en Moldavie, comme l'a été en Ukraine, c'est très délicat de les revendiquer. Mais en 89, 90, la chute de Ceaușescu, la première chose que les gens ont demandé, l'unification de la Moldavie avec la Roumanie. Mais tout de suite, il y a eu des réactions extrêmement violentes. On a préféré ne pas déclencher des choses très, très difficiles.
D'accord. D'accord. Mmh. Donc c'est dans ce contexte-là que tu as évolué quand tu étais jeune et du fond de ta Bessarabie natale, Bukovine natale, pardon. Tu as eu envie de faire ta peinture. Ça vient d'où? Parce que je sais que la région d'où tu viens, c'est une région où la nature est très luxuriante, très importante. Tu me parlais de l'eau tout à l'heure. Tout ça vient
plus d'une nature bénie, d'une nature extrêmement harmonieuse. Pour tous les Roumains de Roumanie, Vatra Dornei, ma ville natale s'appelle Vatra Dornei, et le pays de Dorna, Țara Dornelor, est très connu pour sa beauté. On y va, on y est bien. Donc voilà, c'est y a même à l'époque où la Bucovina a été dans l'Empire austro-hongrois, c'est devenu une station où on venait faire des traitements. De tout l'Empire austro-hongrois, ou plus tard, quand c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, quand c'est devenu roumaine, c'est devenu une ville, on appelle ça ville de bain, non, pas balnéaire.
Si, ville balnéaire.
On va se traiter.
On va au bain.
Avec la nature et tout ça. C'est particulièrement beau. Maintenant, il est connu, ma région aussi, la Bucovina, grâce au monastère peint à l'extérieur, qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, qui sont d'une grande beauté, leur histoire aussi. Un des monastères très importants de cette région, c'était Putna, où se trouve le tombeau de Stéphane le Grand, notre grand champion, le roi qui a le plus tenu face aux Turcs. Il a eu des dizaines de batailles qu'il a quasiment toutes gagnées grâce aux Turcs. Et grâce à cette résistance très acerbe, à laquelle avait fait partie Vlad l'Empaleur, le prototype de Dracula au sud, dans la Vlachie, voilà, de quelques siècles comme cette résistance, le moment quand les pays ont reconnu la vassalité au monde des Turcs, les Turcs étaient contents d'avoir des pays vassaux que d'avoir administré des pays si difficiles à tenir. Voilà, donc on a gardé tout le temps notre identité, nos dirigeants chrétiens, etc. On n'a jamais été administré directement par les Turcs. Et le plus grand dans cette résistance, c'était Stéphane le Grand, le seigneur de Moldavie, qui est mort en 1504. Et son tombeau, c'est dans ce monastère de Putna, où il a continué à défendre la Roumanie après sa mort, parce que quand Staline a dessiné la nouvelle frontière, quand s'est emparé des terres roumaines, il n'a pas osé passer au-delà ou au-dessus de Putna, du lieu où repose Stéphane le Grand. Donc, quelque part, ça nous a permis de garder plus de territoire grâce à lui, même après sa mort.
Très bien.
Je me suis fait comprendre.
Si, j'ai compris. Alors, ton goût pour la peinture, d'où ça vient? Ça vient très jeune dans l'enfance?
Oui. Moi, j'étais assez solitaire et assez curieux. Et peut-être ça arrivait comme ça. Donc j'étais assoiffé de voir, de connaître, d'aimer des choses. Et j'étais pas très sociable, mais j'étais très attaché aux autres. C'est assez mesuré dans faire les choses ensemble. Par contre, j'aimais bien les emparer, je les dessinais, les choses qui me plaisaient, les choses qui remuaient mon âme, je les dessinais avec beaucoup de plaisir. Et je suis allé dans le chemin de l'art sans le savoir. Donc je dessinais bien, ma mère m'a envoyé dans une école d'art dans une grande ville pour changer aussi, pour essayer de nous lever au-dessus de notre condition. On m'avait dans une grande ville à partir de la 6e, donc j'étais au lycée collège de Beaux-Arts de Iași, la plus grande, l'ancienne capitale de la Moldavie, voilà. Donc c'est une grande ville de culture et j'ai passé 7 années à l'internat à apprendre le métier, avec beaucoup, apprendre les rigueurs du métier, mais j'avais les moments où j'étais vraiment heureux de le faire, c'est quand je dessinais les choses qui me touchaient. Donc, comme tout le monde, j'ai appris, j'ai fait du chemin, etc. Et j'étais arrivé à faire des grands progrès dans la capacité de m'exprimer par la peinture, par les dessins, etc. Et ce qui m'a permis à la fin du lycée d'être admis aux Beaux-Arts de Bucarest. L'entrée était très difficile, j'ai réussi quand même dès le début d'entrée et continuer mon chemin, voilà. Mais là, c'est beaucoup plus conscient. Au début, je ne savais pas que j'allais faire de l'art. Je suis allé parce qu'on allait dans un lieu où on pouvait dessiner, c'était pour beaucoup, pour les autres aussi. Je n'avais pas la notion que je me préparais à être artiste. Donc, d'ailleurs, certains des collègues ont continué dans ce chemin, beaucoup de ma classe, mais d'autres qui ont fait d'autres choses pour lesquelles cette rigueur qui est exigée dans ce métier leur a permis d'être bons dans d'autres domaines, de grands architectes, des gens voilà, de cette qualité-là, qui sont partis de cette école d'art de Iași. Et après, c'était à Bucarest. À Bucarest, avant d'aller à Bucarest, j'ai hésité, mais de manière très forte, je voulais être architecte plutôt que peintre.
Ah d'accord.
Et oui, mais il y a eu tout simplement un empêchement administratif. Une loi stupide qui ne permettait pas aux gens qui avaient fait un lycée, le bachelier des lycées qu'on appelait ça humanité, etc., de candidater.
En sciences humaines, tu veux dire.
Voilà, comme les artistes.
C'était voilà. Plutôt les scientifiques qui allaient vers l'architecture.
Voilà, il fallait avoir fait les sections, comme c'est ici la section S. Oui, voilà. Section S, c'est-à-dire il y avait des lycées, on appelait ça les réalistes et les humanistes en Roumanie, c'est le nom officiel, et je n'ai pas eu le droit. Carrément, je m'étais préparé tout seul, j'étais très fort en mathématiques, ça me plaisait beaucoup. C'est une des grandes passions pour moi, c'était les mathématiques, que je trouvais une ouverture vers la poésie, qui me plaisait beaucoup. Je trouvais que la thématique, ça nous envoie, voilà, par cette capacité d'aller au-delà du détail, dans l'abstraction. Je crois que je ne me suis pas trompé, mais j'étais obligé de prendre le chemin à droite, vers la partie humaniste, et de quitter les maths parce que ça faisait pas partie de ce qui était enseigné vraiment à fond aux Beaux-Arts. Mais par contre, voilà, je l'ai fait quand même tout seul. J'étais très bien préparé, mais la loi m'a pas permis de prendre le chemin de l'architecture. Je suis allé vers l'art, bon, en même temps, ce n'est pas parce que j'étais pas fait pour ça, mais je trouvais que c'est un espoir insensé d'être, j'étais très sensible à cette forme, par la formation même, par les musées, très sensible à l'art et très émerveillé, autant que j'avais été par la nature, etc. Mais je me semblais que c'est insensé, cet espoir d'être moi-même artiste. Donc, quand j'ai pris ce chemin aux Beaux-Arts de Bucarest, je suis allé vraiment à fond, parce que j'estimais qu'il faut énormément grandir pour être là-dedans.
Et ça t'a pas trop frustré, le fait de savoir que tu n'allais pas pouvoir être architecte?
Non, l'architecture, ça m'allait, parce que j'ai organisé bien les choses dans ma classe. Quand on voulait prendre une décision, tout le monde se tournait vers moi, etc. Je me voyais bien comme architecte, parce que l'architecte marque le destin de beaucoup de gens. Ouais. J'ai pas pu m'épanouir là-dedans, mais par contre, là, je suis redevenu dans l'art, je suis redevenu, disons, seul, seul devant la tâche qui me fascinait, mais en même temps, voilà, c'était un sacré espoir. Et j'ai pris ça à bras le corps, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait le chemin, Après, j'ai évolué là-dedans.
À quel âge est-ce que tu as eu ton diplôme aux Beaux-Arts?
C'était à 23 ans.
À 23 ans, ok.
23 ans, on était obligé on avait un contrat avec l'État d'aller sur un lieu qui nous était désigné, qu'on pouvait choisir soi-même sur une liste en fonction de notre moyenne. Et j'ai été assez favorisé parce que j'avais la moyenne la plus grande, un peu par hasard. Et je suis arrivé dans une commune tout près de Bucarest, à une trentaine de kilomètres de Bucarest, et j'ai continué à fond, voilà, mon travail en parallèle à celui de professeur. Donc j'enseignais l'art, après j'ai passé dans d'autres écoles, et 12 ans plus tard, il y a eu la révolution.
La révolution en Roumanie, alors. Tout à fait. Est-ce que ça... La révolution roumaine, si tu peux nous en parler un petit peu. D'abord, si on peut rappeler un petit peu rapidement à nos auditeurs ce qui s'est passé en 1990,
c'est ça? Oui, c'était...
Il y avait eu, faut reconnaître qu'il y avait eu la chute du mur déjà en octobre, oui, qui avait commencé en octobre 89, il me semble, à Berlin.
Oui, c'est ça. Donc, on savait que c'est arrivé. Après, ce n'était, comme je vous avais dit, c'était pas clair, mais la chute de Ceausescu était préparé 3 ans avant. D'un coup, toute la presse occidentale qui avait élogié, avec que des éloges pour Ceausescu, a commencé à le diaboliser d'une manière très évidente. Et aussi, à l'intérieur, sans que se rendre compte, le terrain a été préparé. Les gens qui se rendaient compte que dans les conditions où tous les pays anciennement sous l'influence soviétique se détachaient, la Roumanie ne pouvait pas tenir tout seul, c'était évident. Donc ils ont préparé leur place. Et à l'intérieur, par exemple, Ceausescu avait compris, un des tares du communisme, c'est qu'il n'y avait pas une vraie démocratie. Il n'y avait pas la possibilité de se contredire, voilà. Et il n'y avait pas de stimulation.
D'expression politique.
Non, mais même une vraie émulation.
Il n'y avait pas d'agora.
De faire des choses bien. Ouais. Tout le monde était sûr d'avoir un salaire. Et
c'est le contraire, excuse-moi, parce que notre émission est diffusée à Marseille sur Radio Galère. Marseille, c'est un lieu méditerranéen où les gens sont toujours en train de contester et il y a toujours du contradictoire entre les gens parce que, en fait, la démocratie, c'est né autour de la Méditerranée, que ce soit du côté africain ou du côté européen, peu importe, ou du côté du Moyen-Orient, peu importe, mais c'est né en Méditerranée. C'est l'agora politique. Et l'agora n'était pas présente à l'époque en Roumanie. C'est ce que tu veux dire?
Bah, dans la réalité, les gens
en cachette,
comme partout, une intelligence des choses, ouais. C'était évident que ce régime qui ce régime unique avec voilà, c'est comme quelqu'un qui essaie de marcher avec une seule jambe.
Ouais, c'est ça.
Deux quand même, donc cette alternance de cette face à face et tout ça n'existait pas. Ouais. Et en plus la responsabilité qu'on avait, c'est de rapporter que tout s'est bien fait. Donc c'est tout. Donc les gens, quand ça ne pouvait pas être bien fait, parce que parfois objectivement ce n'était plus possible, les gens n'étaient pas motivés, ils avaient tous des salaires.
Ouais.
Donc le communisme est passé, c'était un faillissement, une faillite économique en fait. Donc ils ne pouvaient pas progresser, le capitaliste qui est cruel, voilà, au moins il est vivant. Donc il correspond à la vie. Tandis que là, c'était faire un être avec une espèce de régime comme un robot. Ça pouvait pas se développer. Donc,
bien sûr.
Voilà. Et Ceausescu avait senti ça quand même. Qu'il a senti qu'il y a quelque chose qui est vraiment... Même s'il n'avait pas la possibilité, tout le monde lui disait que tout va bien. Mm-hmm. Il n'osait pas lui dire que ça n'allait pas. Et c'était une lâcheté comme ça, que c'était par mimétisme répandu. Les cas où on se permettait, les gens s'auto-censuraient ou se censuraient entre eux bêtement. Si quelqu'un osait, les autres, autant d'être contents de se dire enfin quelqu'un qui ose, il, par une espèce de sollicitude par rapport au régime, allait critiquer, je ne sais pas, qu'est-ce que tu racontes, je ne sais pas quoi. Donc, il a pas, mais il a senti quand même certaines choses qui n'allaient pas, surtout la responsabilité. Il a décidé, 3 ans avant de sa chute, que les gens doivent prendre la responsabilité, que toutes les entreprises doivent être rentables. Et s'auto-administrer, même nous en tant qu'étudiants, on avait nos foyers étudiants, on habitait, etc. On n'avait plus d'homme de ménage, c'était à nous de nous débrouiller, c'était partout. Mais ça venait trop tard. Les gens étaient trop affaiblis, pas habitués d'avoir des responsabilités. Pour eux, c'était une difficulté de plus. Donc il a bien senti que c'est ça qu'il faut faire pour que la société marche. Il faut que tous les gens soient responsables, mais ça venait sur
un
peuple exsangue. Oui, c'était très difficile. Et en plus, les profiteurs du régime, toute cette clique qui profitait, qui les favorisait, troublait les choses. Quand Ceausescu demandait une mesure comme ça, il l'appliquait à outrance. Il accentuait la difficulté. Ceausescu a décidé, par exemple, de faire des économies d'électricité. Alors il faisait des cours, des classes de 30 minutes pour finir avant la nuit, avant la tombée de la nuit. C'était absurde. Donc toujours il y a des gens qui étaient renvoyés de chez eux pour démolir, pour faire de nouvelles choses. Le célèbre scandale des communes qui étaient démolies pour que les paysans habitent dans des immeubles minables, etc., c'était aussi une manière exagérée d'appliquer c'est fait des choses qui n'étaient pas mauvaises, de pouvoir utiliser la technique sur des grandes surfaces, voilà, mais c'était appliqué d'une manière que les gens étaient heurtés. Les gens qui ne pouvaient plus posséder un cheval dans un immeuble, tu ne peux pas avoir un cheval.
Oui.
Tu n'avais plus ta maison, etc. Et c'était horrible pour
eux. Oui, bien sûr.
Donc ça, la haine des gens se dirigeait vers un seul. C'est Ceausescu qui a demandé ça. Mais en fait, la manière d'appliquer les choses à outrance a contribué au fait que pour tout le monde, le coupable, c'était Ceausescu, sa diabolique femme, etc. Mais tout ça, c'était exagéré par rapport à la réalité.
Bien sûr, je comprends.
Ceausescu a été soi-disant jugé. En face de lui, c'était des gens qu'il avait protégés. Iliescu, qui allait prendre sa place après, était là, présent au procès. Ouais. Mais ils ont mis 3 jours à rectifier, à faire le montage sur le procès pour nous le présenter à la télé, parce que tout les compromettait. Tout ce que Ceaușescu disait, c'était, il ne pouvait pas se permettre que les gens sachent ce qui a été dit. Ils sont pressés à le tuer pour que nous n'ouvrions plus la bouche, en fait.
D'accord.
Et après, nous, on a cru que ça va... Vous savez que c'est à Timișoara que ça a démarré. Et il y a eu le scandale sur les cadavres de Timișoara, etc.
Charnier.
Les cadavres, il y a eu. Mais ils ont été tous déplacés en isotherme à Bucarest, au crématoire. Et quand tout le monde avait vu des gens mourir dans la rue, ils sont allés, ils sont précipités à la morgue. C'était de bonne foi qu'ils ont cru que c'est les là, ils ont montré des morts normaux de la morgue parce qu'il y a qui avaient subi des comment ça s'appelle
des ablations
oui voilà. ou des recherches par rapport à la cause de la mort et tout ça
fait.
Et après c'est devenu le grand scandale, la manipulation. Il n'y a pas eu des morts, mais on a fait croire qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts, mais
comme les journalistes les ont pas trouvés, ils en ont filmé d'autres, mais il y en a eu, c'est ça.
Et tous les gens impliqués dans cette opération de nettoyer les cadavres de Timișoara, à plus de 300 cadavres, etc., comme par hasard, sont morts les uns après les autres.
Ouais.
Donc, le général Milea, qui s'est soi-disant suicidé, on ne le saura jamais, parce qu'ils avaient le pain, comme on dit en roumain, le pain et le couteau. Ils avaient tous les moyens de tout cacher, de montrer ce qu'ils voulaient, etc. Donc, voilà, ça a commencé à Timișoara. Donc, après la chute de Ceaușescu, à Timișoara a été éditée la proclamation de Timișoara, dont le point numéro 8 exigeait que les anciens responsables de toutes ces années de communisme, voilà, ce qui a été appelé comme ça en Roumanie, s'abstiennent pour 2 ans, c'est pas énorme, pour 2 ans de toute responsabilité. C'est ça qui était exigé à Timișoara, le point numéro 8. C'était vraiment, toute la nation voulait ça. Ils n'ont pas lâché le morceau. Ils avaient tous les moyens de mass media dans leurs mains. Ils n'ont pas... On n'a pas réussi. On a fait une démonstration. On a bloqué le boulevard principal de Bucarest à la hauteur de l'université de Bucarest. C'est la fameuse manifestation de la place de l'université où j'étais tous les jours. Et qui a été fermé, ce boulevard, pendant 3 mois, plus longtemps que Tiananmen. Et ce que les Chinois ont fait avec les tanks, le gouvernement roumain a fait avec les mineurs. Il y a eu une invasion des mineurs des mines qui sont venus sur Bucarest pour délivrer le pays des fascistes. Donc on était, nous qui avons protesté contre le maintien de ces gens au pouvoir, on était désignés comme fascistes, et les gens qui avaient fait la révolution en pyjama et pantoufles, ils nous haïssaient parce que nous on protestait, on contestait ces gens qui étaient, enfin c'était leur bourreau qu'ils soutenaient. Mais c'est pour ça que à la fin je me suis trouvé une situation. Je suis parti de prendre les cures, je n'ai pas pu répondre. J'ai compris que c'est pas. Il faut tenir pendant des décennies pour que quelque chose change. Je n'ai pas pu revenir. Il y a d'autres qui sont moins brûlés dans cette histoire. Donc ils ont dit, va avec la patience, on va faire évoluer les choses. C'est que ça fait. Ça n'arrête pas de s'assainir, mais c'est long.
Bien sûr.
La pourriture est trop profonde, donc c'est assez compliqué.
Est-ce que tu y retournes de temps en temps en Roumanie?
Oui, bah, j'ai mis 13 ans pour revenir la première fois, et 7 ans plus tard, la deuxième fois. Après, c'était moins espacé avec le temps.
D'accord.
Et il y a un an, j'ai, pour la première fois que j'ai passé 2 semaines, donc une dizaine de jours dans ma ville natale, voilà, donc c'était une espèce d'apaisement.
Et tu as retrouvé de la famille?
Oui, moi j'ai toute ma famille là-bas.
D'accord.
Mes frères sont à Iași, parce qu'après moi, quand je suis allé aux Beaux-Arts, les deux frères aussi ont été envoyés par notre mère à Iași.
D'accord.
Donc
ils étaient aux Beaux-Arts aussi.
Tous. Le troisième, le cadet, il a fait les Beaux-Arts au lycée, mais il est passé à la section d'architecture pour la fac.
D'accord.
Donc, il n'est pas architecte, il est ingénieur. Et pratiquement, il a le diplôme et tout. Il n'a jamais voulu faire ça, il a toujours pas. Toujours vécu ça.
D'accord. Alors écoute, Sergio, je rigole un peu parce que c'est passionnant de t'écouter, mais on pourra faire d'autres émissions avec toi si tu veux. On va quand même parler un petit peu de ta peinture parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour en parler. Il nous reste juste 8 minutes parce qu'on a beaucoup parlé de la Roumanie, mais ça fait rien. Alors, cette exposition-là, elle s'appelle Conciliabule au fil du temps.
Voilà.
Un peu.
Conciliabule. Vous savez,
Conciliabule, c'est parce que, je le dis à nos auditeurs, parce que le sous-titre, c'est diptyque, triptyque et autres. Alors, à lui seul, tout le titre de l'affiche, qui est très jolie d'ailleurs, parce qu'elle porte...
Résume
très bien le sens de l'exposition. Ouais. Parce que si tu dis au fil du temps, c'est au gré de l'évolution de ta peinture. Là, on est, pour cette exposition, dans le temps 1. Et il y a des conciliabules entre tableaux parce que tu présentes des diptyques, des triptyques et autres.
Voilà.
À la Rutile Galerie, je le rappelle, à 4-6 avenue Édouard Vaillant, jusqu'au 13 janvier, de 14h à 18h. Donc, c'est bientôt fini. Donc, c'était aujourd'hui.
Mais c'était prolongé de 4 semaines.
Ah, pardon, c'est prolongé de 4 semaines. Jusqu'au 10
février. Et même, on aura le symétrique du vernissage. Ça va être un finissage le 10.
Le 10 février.
Les auditeurs sont invités au finissage s'ils le veulent.
D'accord. Et à quelle heure?
Ça va être tout l'après-midi.
D'accord.
À partir de 17h.
Donc, le 10 février, je ne sais pas quel jour ça sera. Si ça sera vous. Alors le samedi 10 février, venez à la Rutile Galerie au 6 avenue Édouard Vaillant à Paris, auprès Saint-Gervais, ça touche Paris, à la galerie d'art pour regarder ce que tu appelles le... Tu appelles ça comment?
La rutile s'appelle la galerie.
L'événement qui va avoir lieu le 10 février.
Ah, c'est un finissage.
Un finissage. Qu'est-ce que c'est un finissage exactement?
Alors, le vernissage, le mot qui est devenu le vernissage, ça vient de l'époque des salons.
Oui.
Quand les peintres étaient très techniques sur la présentation dans le salon, et en fonction de leur œuvre était exposée, et en fonction de la lumière qui tombait dessus, etc., ils passaient le vernis.
D'accord.
Pour que ça soit pas trop brillant, c'était en face de la lumière, etc. Et cette fête, le jour quand ils passaient le vernis, c'est devenu le premier jour de l'exposition, c'est le vernissage, parce qu'ils vernissaient leur tableau. Donc après, le vernissage est devenu, ça n'a pas forcément un rapport avec le vernis qu'on dépose, c'est le jour, l'ouverture festive, si on veut, officielle d'une exposition. Et le finissage, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas. Pendant l'exposition, il y a des gens qui organisent des événements, un concert, un moment plus ou moins poétique d'une manière ou d'une autre, ou sinon il y a le finissage qui peut être aussi associé à un moment musical ou poétique. Voilà.
Très bien. Alors, on va quand même en parler un petit peu. Moi, j'aime beaucoup ta peinture, je la trouve très émouvante, en même temps, elle est très expressive aussi en même temps. Donc, comme tu me le disais toi-même, c'est toi qui l'as définie ainsi. Ce n'est pas de la peinture abstraite, ce n'est pas non plus de la peinture figurative, mais c'est entre les deux. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver...
On ne peut pas dire ça non plus. On me reproche aux entretiens que je réponds toujours à côté de la question, mais ce n'est pas mon intention. C'est que en fait, quand on dit abstraite, c'est que on prend l'essentiel. Quand on dit, on fait abstraction, on prend l'essentiel, on laisse les détails de côté. Et dans l'art abstrait, c'est devenu l'art où on reconnaît pas une représentation des choses reconnaissables, enfin de la vie. Pour moi, c'était pas l'intention de faire du lyrisme en soi. Mais pour moi, la peinture figurative, c'est de dire vrai, d'arriver avec peu de moyens, de dire beaucoup. Ça passe par une certaine poésie de l'image, un agencement du tableau pour qu'il parle, qu'il nous touche, comme on nous touche quand on écoute une mélodie suggestive, une musique suggestive, voilà. Mais c'était pour dire, pour être plus vrai que dans le figuratif, parce que le figuratif, pour moi, c'est beaucoup à dire, mais ce n'est, pour moi, j'ai beaucoup cultivé ça à fond, et j'essaie de dire au-delà de l'image, voilà, mais ça manquait la pulsation, la vie qui bouge, qui change, voilà, tout existe en mouvement. Et ce mouvement, dans le figuratif qui est figé, ça me manquait. Donc j'ai abordé à nouveau, j'ai pris de zéro d'avant de mon apprentissage, j'ai fait un nouvel apprentissage pour arriver à capter ça. Et je suis arrivé à non figuratif pour dire plus vrai que le figuratif, plus réaliste, plus vrai de ce qui est la chose dont je parle dans mon tableau. Voilà.
Je comprends. Alors, c'est pour nos auditeurs, je le dis rapidement, dans cette exposition, il y a beaucoup de choses, beaucoup de styles, pas de styles différents vraiment, c'est toujours un peu le même style, mais il y a beaucoup de techniques différentes qui ont été utilisées, de la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau, de la gouache, peut-être de l'acrylique, pardon.
Du pastel sec et pastel gras.
Du pastel sec et pastel gras, fusain.
Fusain aussi.
Stylobi.
Oui, c'est ça.
Il y a des dessins au stylobi aussi.
Fusain et crayon. Voilà. C'est des techniques aussi combinées. Il y a ouais. Pas mal de lavidin.
D'accord.
Il y a même de la gravure.
Il y a même de la gravure, enfin, c'est assez complet, on dirait. Tu as choisi un échantillon parmi tout ce que tu as chez toi, un échantillon représentatif d'un peu tout ce que tu faisais.
Voilà, moi je n'ai pas eu l'intention de faire une rétrospective, je me suis rendu à compte après. Comme le fil conducteur, c'est les conciliabules, c'est-à-dire... Pardon, un échange entre les tableaux, parce que c'est ça discute, c'est conciliabule, c'est une discussion un peu secrète.
Voilà, c'est ça. Donc,
c'est un peu mystérieux.
Effectivement.
Donc, effectivement, entre ces œuvres, c'est essayer de s'aventurer dans ce mystère.
Ouais.
En plus, voilà, c'est pas pour représenter une chose nette, la vie est très complexe, et chaque tableau, chaque diptyque, c'est une histoire, voilà, qui est à découvrir, à suivre les conciliabules qu'il y a entre les œuvres.
D'accord. C'est très intéressant, parce que justement, moi, je connais, enfin, dans les triptyques célèbres, on a, bien sûr, toute la religiosité, enfin, on a beaucoup de tableaux religieux, chrétiens, et même en Europe de l'Est, et oui. Dans la peinture flamande aussi, surtout, mais aussi dans la peinture du Moyen-Âge en France, les triptyques, souvent, ce sont des tableaux qui ont été faits au Moyen-Âge. Les premiers triptyques sont des tableaux qui ont été faits au Moyen-Âge, sur lesquels on a une scène du Nouveau Testament qui est représentée, avec une scène centrale, sur un tableau central, et deux autres tableaux qui sont... avec des volets qui se ferment.
Quand ils sont fermés, ça fait un diptyque.
Tout à fait.
Et quand c'est ouvert, c'est un triptyque.
Voilà. Et ils complètent la scène. Voilà.
Oui, c'est ça. Et,
tout à fait.
C'est toujours une correspondance. Ça se complète.
Et exactement. Puis, et puis, en plus, en même temps, triptyque, ça vient un peu du mot, du concept de trinité.
Trinité
c'est ça, hein, on est d'accord.
C'est une obsession.
Ah, d'accord. Faudra qu'on en discute.
Que, oui,
mais on fera d'autres émissions, si tu veux.
Ce n'est pas de la peinture ou... Justement, c'est la Trinité qui est déclinée, c'est des structures que j'ai faites, que j'ai exposées dans des parcs, etc.
D'accord.
Et c'est toujours à trois éléments qui se... Voilà.
C'est très important, ça, ce mythe du 3. Mais chez toi, il y a aussi celui du 2, avec le diptyque. Alors, il y a plusieurs diptyques. Par exemple, j'en vois... Là, je vois deux couples. On va parler en couple.
Ouais, ouais,
un couple d'amis. Ou un couple tout court. Alors, tu as du noir sur fond blanc et du blanc sur fond beige. C'est très intéressant. Là, le noir et blanc, c'est venu d'où? Parce que je ne me souviens pas t'avoir vu faire beaucoup de noir et blanc. Et il y a plusieurs tableaux avec du noir et blanc. Ce n'est pas toujours la même chose. Tu as une série aussi, un triptyque.
Trilogie, mais bon.
Tu appelles ça une trilogie, oui, parce qu'il est vertical.
C'est un triptyque.
Un triptyque noir et blanc, voilà, assez intéressant. Puis tu as une série d'autres triptyques où cette fois-ci, tu as un dessin en couleur noire. Qui, avec du blanc, qui vient s'immiscer au milieu du dessin.
Ouais.
C'est encore un autre style.
Oui, le style, c'est-à-dire le dialogue, c'est un dialogue aussi avec la technique. Je ne fais pas les mêmes images, je n'ai pas l'ambition pas, de faire les mêmes images quand je fais un graphisme, quand je fais un tableau, mais c'est qui c'est ce mouvement qui est à l'intérieur, qui correspond, moi, dans ma tête, mais ce n'est pas des titres, c'est une histoire. C'est une histoire d'eau, une histoire tectonique sur des millénaires, ou c'est l'histoire de formes de vie ou d'existence sur quelques secondes. Mais ça, pour moi, un tableau commence à exister quand ça bouge. J'ai l'impression que ça nous entraîne.
Il y a du mouvement.
Il y a un mouvement, mais qu'un mouvement, que lui, le rythme qui est dans ce mouvement, c'est lui qui nous porte dans le monde de ce que ça représente. Voilà. C'est là, il faut se laisser porter, c'est-à-dire, si on veut voir peut-être ton impression, comme à d'autres gens au début, tu as l'impression que c'est, on attend, on faut attendre pour voir. En fait, c'est ça, si on commence à entrer dans ce type d'existence, il faut se laisser porter. Et après, on s'aperçoit de tout
D'accord, toi tu filmes, tu vois, c'est un lapsus révélateur.
Complètement.
Tu filmes, enfin, voilà, plus précisément, tu peins voilà, le mouvement et la vie.
C'est une histoire. D'ailleurs,
parce que la vie, c'est le mouvement.
J'ai tout complètement. L'existence, tout, même au niveau chimique,
sans mouvement.
Les choses ne bougent pas.
Dans l'immobilité, il n'y a rien. Même quelque chose qui paraît immobile est toujours en mouvement.
Peut-être qu'un jour je vais faire des choses figuratives, mais qui sont fécondées par ce mouvement qui est peut-être un peu dans l'époque précédente à cette démarche depuis 30-40 ans. Qui
on va reparler, ça, on va reparler, mais si tu veux bien, on fera une autre émission. Parce que là, on est en train de dépasser notre temps et je vais me faire disputer par le monteur. Non. C'est juste que j'aime beaucoup ta peinture et que tu as fait des choses très intéressantes. Même les dessins très simplistes sont très intéressants aussi parce qu'ils traduisent quelque chose. Mais on va être obligé maintenant, Sergio, de laisser nos auditeurs parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu fait le tour. On a un petit peu déblayé le terrain, on va dire. C'est comme si on déblayait le terrain tous les deux, mais je pense qu'on va avoir besoin de faire d'autres émissions pour mieux connaître ta peinture. Si tu veux bien, on va laisser nos auditeurs pour cette fois-ci.
C'est ça.
Et on fera de nouveaux enregistrements et on essaiera de parler de manière un petit peu plus approfondie de ta peinture.
Oui, je suis d'avis qu'un artiste doit garder son indépendance et essayer de se faire comprendre, enfin que les gens fassent l'effort de le comprendre, mais je pense que l'effort doit être des deux côtés. Donc je vais peut-être parlerai d'une manière différente et complétude de ce qu'on s'est dit quand j'aurai compris un peu l'auditoire de ton les auditeurs de cette émission que tu fais. Donc je vais écouter les autres éditions.
Peut-être même que certains d'ici là vont venir voir ta peinture le 10 février puisque ça sera intéressant, ou même avant le 10 février puisque c'est ouvert tous les jours.
Voilà. Non, c'est ouvert tous les jours sous rendez-vous.
Oui.
Voilà. Donc au 06 60, 63, 35, 61. Et c'est ouvert, je fais une permanence tous les samedis, parce que c'est l'artiste même pour cette petite galerie qui assure l'ouverture, tous les samedis après-midi, à partir de 14h jusqu'à open après. Voilà.
Donc, il y a un peu de toutes les techniques, plusieurs sortes de techniques. Mmh. Il y a également du noir et blanc, et puis aussi certains de la couleur. Et tu te débrouilles, tu manies très bien la couleur. Ça donne quelque chose de très intéressant aussi. On peut peut-être conclure là-dessus très rapidement, par contre, Sergio, parce que
c'est à nouveau un paradoxe, c'est que pour moi, le noir et blanc. Ouais. Mon ambition, c'est qu'elle soit aussi colorée, même si le noir et blanc, que les couleurs. Il y a toute la richesse, la profondeur des tableaux qui sont en couleur. Voilà.
D'accord.
Il faut les voir.
Tout à fait. Voilà, il faut le voir pour comprendre. Merci Sergio. Merci à nos très chers auditeurs.
C'était un grand plaisir, voilà, d'imaginer l'auditeur qui est de l'autre côté. Voilà.
Et de savoir qu'on va peut-être pouvoir continuer à approfondir davantage cette discussion sur ta peinture, qui peut nous ouvrir des portes peut-être vers d'autres peintures ou d'autres choses. C'est très intéressant, notamment sur ce concept de Trinité dont tu parlais. Ça mériterait qu'on l'approfondisse et qu'on en parle un peu plus. Merci Sergio. Excellente fin de semaine à tous, à Sergio et puis bien sûr à nos très chers auditeurs. À très bientôt, à lundi prochain, au revoir.